2 Samuel 7, versets 1 à 17. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous ses ennemis, tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète : Vois donc, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi : Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand les jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Et celui qui sera sorti de tes entrailles, Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Durant le règne de David et de Salomon, 11e et 10e siècle avant Jésus-Christ, Israël a établi le royaume le plus puissant de son histoire. Ni avant, ni après son histoire, dans son histoire, Israël n'a jamais eu de frontières aussi étendues. Jamais il n'a joui d'une liberté et d'un respect comme celle-ci d'après les autres nations. Excusez-moi. Merci. En une série de guerres, David a vaincu les ennemis d'Israël. Les Philistins, les Cananéens, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Amalécites. Il a étendu sa domination depuis la frontière avec l'Égypte jusqu'au golfe d'Aqaba, ça c'est la mer Rouge, et puis encore jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Il y a peu de détails sur toutes les conquêtes qu'a opérées David, toutes les victoires qu'il a remportées. Mais notre texte, ici, dans le chapitre 7 et au verset 1, il dit « Lorsque le roi habita dans sa demeure et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. » C'est l'Éternel qui a permis à David d'étendre son royaume de la sorte. En 2 Samuel 6, le chapitre nous révèle l'intérêt que David a pour l'arche de Dieu. Il comprenait que rien ne pouvait unifier davantage le peuple de Dieu que l'arche, que le Seigneur lui-même. Et l'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu. Ainsi, de ramener l'arche à Jérusalem, c'était l'assurance que l'Éternel était au milieu de son peuple. Saül n'avait eu aucun intérêt pour l'arche. L'arche avait été perdue, prise par les Philistins et puis renvoyée en Israël et puis laissée là, un peu abandonnée. Et tout ça avant son règne. Mais pendant tout son règne, la pensée de faire revenir l'arche de Dieu à Jérusalem ou en place d'honneur, jamais ça n'a traversé son esprit. Mais maintenant que David est roi, il fait revenir l'arche à Jérusalem. Et même, il désire bâtir un temple, une maison dans laquelle il placera l'arche de l'Alliance. On rêve tous d'une maison stable, non? Il y a un désir dans notre cœur de former une famille lorsqu'on est célibataire. Et on veut que cette famille soit stable. Et lorsque on est marié, on aspire à voir nos enfants, voir nos petits-enfants marcher dans les voies du Seigneur. On aspire à cette stabilité. On aimerait les voir vivre pour le Seigneur. Et quelque part, ça c'est notre rêve. Et je crois que c'est un rêve qui est noble, vraiment noble. Et David avait ce même rêve pour son peuple, pour sa famille. C'était de construire une maison stable. Mais lui, il voulait construire une maison stable aussi pour l'Éternel. Et c'est cela sa première pensée. Il dit, oh, je vais construire une maison stable pour le Seigneur. C'était une idée qui était noble, je crois. Il s'émerveille de tout ce que Dieu a fait pour lui, le repos qu'il lui a donné, son règne qui s'affermit de jour en jour, un palais à Jérusalem. Il sait que c'est Dieu qui lui est l'auteur de tout cela dans sa vie. Alors il veut lui rendre gloire. Il veut lui rendre tout l'honneur. Un temple, et il rêve d'un temple à Jérusalem. Un temple où Israël se réunirait pour célébrer l'Éternel. Voilà ce que David a en tête. Et il en parle à Nathan, le prophète. Et Nathan lui dit, il est emballé, Nathan. Nathan, il lui dit, mais vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur. Ça, c'est bon, ça. L'Éternel est vraiment avec toi. C'était une bonne idée. Puisque maintenant, Israël avait un territoire. Dieu les avait délivrés de leurs ennemis. Ils n'avaient plus à errer de lieu en lieu. La tente de Moïse, c'était pratique parce que le peuple voyageait de lieu en lieu, mais maintenant qu'ils sont arrivés à destination, une maison de Dieu stable, fixe, c'est plutôt une bonne idée. L'idée même d'un temple va être retenue par Dieu, puisqu'il révèle dans notre passage que ce sera Salomon, le fils et le successeur de David, qui lui bâtira un temple. Et Dieu lui-même va remplir ce temple de sa gloire. Si je vous lis juste quelques versets en 1 Roi 8, c'est lorsque Salomon a achevé le temple, au verset 6, il est dit: les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Verset 10, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et puis au verset 27, je lis simplement ce verset encore, il dit, c'est dans la prière de Salomon, il dit, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Il sait que Dieu est plus grand que le temple. Il sait que c'est lui qui a créé tout ça. Il sait que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'homme. Mais néanmoins, Dieu a rempli ce temple de sa gloire. On a parfois cette même pensée qu'on doit faire quelque chose pour Dieu, secrètement pour mériter sa stabilité, mériter sa faveur, mériter son approbation, mériter sa bénédiction. On peut s'engager dans des œuvres et des services, et l'on pense que plus on en fait, plus Dieu nous bénira. Et quelque part, presque, Dieu devient notre débiteur. Il nous doit une vie stable parce que finalement, on est tellement fidèle depuis tellement longtemps, et puis on fait tellement de choses pour l'œuvre de Dieu. Et on réclame presque. Et là encore, je voudrais préciser que bien souvent, toutes les œuvres que l'on souhaite faire, elles sont nobles. Elles sont bonnes. Mais elles ne peuvent pas apporter la stabilité à notre maison. Et c'est pourquoi Dieu répond à David, non. Non, tu ne me bâtiras pas une maison. Mais moi, je vais te construire une maison et une maison stable. En hébreu comme en français, hein, le mot maison, ça peut désigner une dynastie aussi bien qu'un édifice. Et Dieu lui dit au verset 11, la fin du verset, il dit « Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Dieu rejette David pour cette œuvre qui semblait pourtant bonne. Et il invoque plusieurs raisons, il dit dans les premiers versets dans 2 Samuel 7, le verset 6, il dit « Mais est-ce toi ? Toi le guerrier ? Toi qui a massacré tellement de Philistins, qui a fait couler tellement de sang ? Est-ce toi ? Est-ce toi qui vas me bâtir cette maison ? » En 1 Chronique, chapitre 22, verset 7, il est dit, David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, « Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. » La maison de Dieu, c'était le symbole du repos que l'on trouve en Dieu. Il fallait que ce soit un homme de paix qui la construise dans un temps de repos. Et c'est pour ça qu'il ajoute en 1 Chronique 22, verset 9, « Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en te délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël, la paix et la tranquillité pendant sa vie. Salomon, ça veut dire paix, shalom. » Et puis, la deuxième raison qui lui dit « Tu ne me construiras pas ce temple », c'est qu'il dit « J'ai pas eu besoin de temple jusqu'ici. » Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. C'est lui qui donne la vie, le mouvement et l'être à chacun. C'est pas nous qui pourvoyons aux besoins de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il dit, n'inversez pas les rôles, c'est moi, votre père, et c'est moi qui prends soin de vous. Et puis encore, il dit, dans les versets 8 à 11, Regardez, il lui rappelle tout ce qu'il a fait. Il dit, je t'ai béni simplement à cause de ma grâce. Il dit, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Il dit, je passe mon temps à répandre ma bénédiction dans ta vie. Je veux déverser ma grâce dans ta vie. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai apporté. Et c'est gratuit. J'ai pas fait ça parce que tu avais fait quelque chose pour moi. J'ai fait ça simplement parce que je t'ai choisi, parce que je t'aime. Ce n'est pas toi qui rendras service à Dieu, mais c'est Dieu qui va encore déverser sa grâce envers toi. Et Dieu va faire une promesse à ce moment-là à David. Et c'est cette promesse-là qui est extraordinaire. D'abord, au verset 12 et 13, il lui dit « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Voyez-vous, il dit « Je vais te donner un fils. » Non seulement tu vas régner sur Israël, mais ton fils après toi va régner. Vous savez quoi? Ça, c'était une bénédiction pour David. Le seul exemple de roi qu'il y avait eu en Israël, c'était Saül. Et Saül, lui, il n'a jamais connu son fils sur le trône. Saül a été rejeté et la dynastie même de Saül a été rejetée. Mais Dieu est en train de dire ici à David, « David, je vais affermir non seulement toi, ton trône, mais je vais affermir le trône de ton fils, je vais affermir ta dynastie. » Ça, c'est déjà une bénédiction. Voir nos enfants poursuivre l'œuvre. Mais il dit un peu plus loin, verset 14, « Je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. » S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Voyez, ici il dit, Saül a péché et je l'ai rejeté. Tu ne régneras plus sur Israël. Et la crainte de David, c'est, mais est-ce que Dieu va rejeter ma dynastie à moi aussi? Ce sont des pécheurs. Et Dieu dit, non, je les corrigerai, mais je ne les rejetterai pas. Et c'est ça sa promesse. Je vais garder ta dynastie sur le trône, malgré ses fautes, malgré ses péchés. Dieu ne rejettera pas son fils s'il pêche. Lorsqu'on veut établir une famille stable, on se heurte à une chose terrible. C'est que nous sommes instables. Et nos enfants sont instables. Notre mari ou notre épouse est instable. Tout est instable. On est tous des pécheurs. Et la pensée ici, c'est que une famille va s'affermir mais par la justice. Un royaume va s'affermir par la justice. C'est ce que disent les proverbes. Ils disent, c'est par la justice que le trône s'affermit, proverbe 16, 12. Et c'est aussi ce que Dieu avait annoncé à David, hein, et ce qu'il répète à son fils en 1 roi, chapitre 2, regardez. J'aimerais que vous suiviez bien cette pensée. En 1 roi 2, verset 4, David dit, c'est au moment où il va mourir et il appelle Salomon. Un roi, chapitre 2 et le verset 4. Si tes fils Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Écoutez la parole. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Voilà ce qu'avait dit Dieu. Si tu marches bien, si tes fils marchent bien, et les fils de tes fils marchent bien, alors tu ne manqueras jamais d'un roi sur le trône. Et Salomon a bien compris la chose quand il fait sa prière après la dédicace au moment de la dédicace du temple. Il dit en 1 Roi 8, au verset 25, « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. » Mais la suite, on la connaît. La suite, on la connaît. Regardez au chapitre 11, donc juste trois chapitres plus loin, 1 Roi, chapitre 11, verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Et voilà, le péché a gagné les rois. Et le royaume est divisé. Oh, Dieu avait promis, jusqu'à Salomon, ça va tenir. Mais le fils de Salomon, Roboam, va voir son royaume se déchirer. En fait, la maison de David commence son déclin avec cette promesse du Seigneur. L'instant où Dieu promet à David, « Je vais affermir ton règne, je vais affermir le règne de ton fils. » Déjà le déclin commence. C'est terrible. Le royaume est divisé à la fin du règne de son fils, celui-là même qui construit le temple. Il n'y a pas de stabilité pour le trône de David jusqu'à ce que vienne un roi sans péché. Et vous savez, ça c'est une vérité essentielle à réaliser. Il n'y a pas de stabilité pour nos maisons. Il n'y a pas de stabilité pour nos foyers, il n'y a pas de stabilité pour nos familles, avant qu'un roi sans péché ne vienne régner dans nos familles. D'ailleurs, les mauvais rois s'étant succédés, le peuple est même parti en captivité à Babylone. Regardez ce que Dieu écrit en Jérémie. Je vous demande encore un peu d'attention. Jérémie 23. Jérémie, le prophète Jérémie, il prophétise quand Israël part en déportation. Au chapitre 23, verset 1, regardez ce qu'il dit. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Il est en train de dire, il y a eu des bergers à la tête de mon peuple. Et ces bergers ont mal fait le travail. Ils ont tous été déficients. Et le troupeau est en dispersion maintenant. Il est à Babylone. Et il dit, mais, et il fait cette promesse, mais je vais ramener le troupeau, je vais ramener toutes les brebis dans le pays. Et verset 5, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est Jésus qui est annoncé ici, le seul roi qui soit parfaitement juste, celui qui va pouvoir apporter la paix, la stabilité au règne de David, à la maison de David. Et puis, un autre verset, regardez ça. Alors là, ça c'est le chapitre 9, de Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et je vais vous le lire dans la version, la Bible du Semeur. Ésaïe 9, 5 et 6, des versets que l'on lit souvent à cette époque de l'année. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Vous voyez la chose ici ? Dieu a promis... J'enverrai mon fils, j'enverrai un fils, c'est lui qui sera juste. C'est lui qui va affermir pour toujours le règne de la maison de David. Pour toujours. Dieu dit à David, je vais affermir ta maison pour toujours parce que de toi sortira celui qui est sans péché, entièrement digne de régner à jamais, et c'est lui qui réussira. Là où tous les autres ont échoué, et son règne ne passera pas. Aujourd'hui, nous célébrons cet accomplissement. Regardez en Luc chapitre 1, comment l'ange Gabriel s'est révélé en parlant à Marie. L'ange Gabriel, en Luc 1, verset 30, il dit... Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Vous voyez la chose ? Verset 32. Il lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et ça, c'est la promesse qui est en train de s'accomplir. Cette alliance qui a été faite en 2 Samuel 7 s'accomplit. Celui seul qui peut apporter la stabilité au règne de David arrive. Il est né à Bethléem, dans la maison de David. Fantastique. Mais vous dites, mais c'est fantastique, ouais, pour la maison de David. C'est fantastique pour la maison de Jacob. C'est fantastique pour Israël. Ils ont vraiment une bonne nouvelle, ces Juifs. Il y a un roi qui vient et qui va régner sur tout Israël. Mais peut-être vous dites, moi je ne suis pas juif. Moi je ne suis pas juif. Est-ce que je peux participer à ce règne ? Est-ce que la bonne nouvelle est pour moi aussi ? Et regardez ça. Pour répondre à cette question, il faut aller un petit peu plus loin, un petit saut dans le temps, dans l'histoire de l'Église. En Actes chapitre 15, tournez ça, essayez encore d'être concentré là. Je vous remets le contexte. Certains judaïsants au début de l'Église, dans l'Église primitive, enseignent qu'il faut être circoncis pour être sauvé. Et ça, ça crée beaucoup de tumulte dans toute l'Église primitive. Et il y a un concile qui se réunit à Jérusalem. Et ce concile, lors de ce concile, il y a l'apôtre Pierre qui prend la parole. Et il va expliquer que lorsqu'il s'est rendu dans la maison de Corneille, qui est un Romain, un païen, eh bien, il a annoncé l'Évangile. Et la maison de Corneille a cru et le Saint-Esprit est descendu sur tous ces païens qui croyaient, de la même manière que le Saint-Esprit était descendu à Pentecôte sur les Juifs qui croyaient en Jésus-Christ. Et Jacques, le demi-frère du Seigneur, l'auteur de l'épître que nous étudions le mardi soir, prend la parole au chapitre 15. Il est l'ancien de l'église de Jérusalem, et il dit, verset 13, « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur la nation pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. » Et là, il cite Amos, chapitre 9. Voilà ce qu'il dit. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » Ça, c'est un prophète de la restauration, hein, du retour après la captivité. Donc il dit, il promet, je reviendrai, je redresserai la tente de David, je réparerai les ruines, je redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toute éternité. Dieu est en train de dire ici, Jacques est en train de citer Amos, qui dit... Depuis qu'Israël est parti en captivité, j'ai déjà le dessein de ramener Israël à Jérusalem, dans son pays. Et je veux qu'il reste encore un témoin, pour que toutes les autres nations parviennent, hein, il dit, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, c'est-à-dire toutes les nations, puissent entendre le message de l'Évangile. Ça signifie que l'alliance de David, ce n'était pas simplement avec Israël, mais c'est aussi avec nous aujourd'hui. Et c'est cela qui est extraordinaire. Nous sommes mis au même bénéfice. Si nous voulons une maison stable, il nous faut que Jésus-Christ vienne et qu'il règne dans nos vies. Pas de stabilité sans Jésus-Christ. Pas de maison stable sans Jésus-Christ. La promesse que Dieu a faite à David, c'est son alliance, et cela ne dépend que de lui. C'est ça qui est bouleversant. David dit, je veux faire quelque chose pour toi. Il dit, je veux pas. Moi, je vais faire quelque chose pour toi, et je vais le faire. Et quand il va le faire, il dit, moi je vais te bénir. Moi je vais répandre ma bénédiction sur ta famille. Une bénédiction que tu n'imagines pas. Pas simplement des fils pécheurs qui vont régner après toi. Mais je vais faire descendre un fils. Mon fils. Le seul qui soit parfait, le seul juste. Qui pourra régner parfaitement sur toutes les nations. Sur tous les cœurs. Simplement... ceux qui croient en lui. Le temple de Salomon, c'était une des sept merveilles du temple de l'Antiquité. Il a été rasé. C'était pas vraiment une maison stable. Zorobabel et Josué en ont reconstruit un autre. Il a été embelli par Hérode. C'est dans ce temple que notre Seigneur Jésus est entré. Mais celui-là aussi a été détruit. L'an 70. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Plus de maison stable, de pierre et de cèdre, mais Dieu a bâti une autre maison avec son Fils, un autre royaume, qui celui-ci est stable. Il règne et il va accomplir son dessein jusqu'au bout, avec, et on peut en avoir une certitude. Et voilà comment on construit une maison stable. Voilà comment s'accomplit notre rêve. On voulait construire une maison stable pour Dieu. Ça n'a pas marché. Alors Dieu dit, moi je vais vous construire une maison stable. Et pour que je vous construise une maison stable, je vais envoyer mon fils. C'est lui qui va mourir pour vos péchés. C'est lui qui va régner sur vos vies. Et même que vous soyez des pécheurs, il va accomplir son dessein merveilleux parce que ça ne dépend que de lui. Alors la question c'est, mais qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse, c'est David qui la donne. En 2 Samuel 7, il dit, mais qui suis-je pour une telle maison? Qui suis-je pour une telle bénédiction? En 2 Samuel, regardez verset 18. 2 Samuel 7, 18. Et le roi. Ah, ça c'est beau ça. Vous voyez, il est là, il est dans son palais. Et la Bible dit ici, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. C'est-à-dire, il est dans ce palais. Il avait dit, oh, moi je suis dans du bois, du cèdre. J'aimerais tellement que le Seigneur ait aussi une arche une telle maison pour y résider. Et là, il sort de son palais après avoir compris ça. Il va dans sa tente. Il va dans la tente de Moïse, là, devant l'arche. Et il dit, mais Seigneur, qui suis-je? Seigneur éternel, quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel? Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole, selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu. Car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Waouh! Il vient d'apprendre une chose extraordinaire. Il vient d'apprendre que son nom, David, va être stabilisé pour toujours. Que son royaume va être stabilisé. Que le Messie va venir de sa propre postérité. ça aurait pu flatter l'ego de n'importe quel homme. Ça l'aurait rempli du sentiment de sa propre importance, incité à agir avec arrogance. Mais David, il est humilié. Il est humilié, il est rempli d'étonnement devant l'immense bonté de Dieu. Et c'est cette bonté qui pousse David à la louange. Il rend grâce, il loue, il prie. Je trouve ça merveilleux, le fait qu'il soit brisé lui-même. Il dit, mais qui suis-je? Pourquoi une telle grâce? C'est incroyable que tu aies pensé à moi pour l'éternité. Et on pourrait dire la même chose que David. Mais pourquoi une telle grâce? Un pécheur comme moi, que tu acceptes pour l'éternité. Un pécheur comme moi dans lequel tu veux montrer ta grâce et ta bonté. Tu veux faire me transformer à ta ressemblance pour l'éternité. Mais pourquoi moi, Seigneur? Qui suis-je? Qui suis-je pour une telle œuvre, une telle bénédiction? Ce qui détruit nos foyers, nos maisons, notre nation, c'est lorsqu'on pense que tout nous est dû, qu'on a le droit à ceci ou à cela. Par contre, ce qui garde et préserve nos maisons, c'est lorsqu'on est saisi par la grâce et la miséricorde qui nous a été faite en Jésus-Christ. Et qu'on éclate en louange, en adoration, en reconnaissance pour toutes choses, pour toute personne. David, il est étonné et il rend grâce de tout son cœur. Et puis ensuite, il va même dire, regardez, et c'est ce qui devrait inspirer nos vies. Il dit au verset 27, « Car toi-même, éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, « Je te fonderai une maison. » Et c'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Il dit, « Mais puisque tu l'as dit toi-même, fais-le !» Et c'est ça qui honore Dieu. Puisque tu as dit que tu vas stabiliser ma maison, fais-le, Seigneur. Fais-le. Mais Seigneur, tu es gracieux. Tu as déjà tout fait pour moi. Maintenant, fais encore ça. Et il saisit les paroles, les promesses de Dieu, et puis il les fait valoir devant Dieu. Et c'est ça qui honore Dieu. La plupart du temps, notre vie se répète dans ces choses-là. On veut faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu. Et Dieu nous dit, non, tu ne mérites rien, mais je vais faire plus que tout ce que tu peux imaginer pour ta maison. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est humilié et on est reconnaissant. Et vous voulez savoir le secret pour une maison stable? C'est avoir saisi la grâce de Dieu qui vous a été faite. Et de louer Dieu pour cela. De continuellement repasser devant vos yeux. Vous ne méritez rien, juste l'enfer. Et Dieu vous accorde sa faveur, son pardon, son ciel pour l'éternité. Il s'est lié à vous pour une promesse. Faites-la valoir. Dites-lui juste merci. Vous savez, quand on est reconnaissant pour la grâce, notre cœur, il est changé. Nos vies, elles débordent de joie. Quand on est reconnaissant, on est joyeux, puisqu'on a plus que tout ce qu'on mérite. Infiniment plus que tout ce qu'on méritait. Et ça, ça a un impact sur toute notre maison. C'est la révélation de la grandeur et de la bonté, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ envers nous, pécheurs, qui doit nous étonner, nous amener dans la repentance et l'émerveillement. Noël, c'est précisément la révélation de la grâce de Dieu qui nous est accordée. C'est Dieu qui répond à notre péché par la manifestation de sa bonté en envoyant son Fils, Jésus, pour nous sauver. Tout est grâce. Tout est grâce. Quand on a saisi qu'on ne mérite rien et que pourtant Dieu nous donne tout, on est humilié et on est reconnaissant et on loue Dieu. Et cet état fait que nos maisons se stabilisent. Que Dieu nous vienne en aide.